10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Damien Fleurot, Mickaël Darmon.
Bonjour Bruno Le Maire.
Bonjour Mickaël Darmon.
Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu'elle ne le refera pas. Sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde se défasse. Ces mots d'Albert Camus, évidemment, lorsqu'il reçoit le prix Nobel de littérature en 1957, peuvent résumer la trajectoire du quinquennat Macron. Il s'agissait de transformer la France. Aujourd'hui, il faut juste la préserver. Le coronavirus est devenu le maître des horloges. Vous allez nous dire comment gagner cette course contre la montre qui oppose crise sanitaire et crise économique. 100 milliards pour convaincre les investisseurs et pour vaincre la pandémie. Le chiffre est fort, mais la réalité est plus complexe, on va le voir. C'est pourquoi ce matin, on va porter avec vous le regard plus loin, car c'est aussi un plan pour relancer politiquement le quinquennat, alors que les premiers bruits de bottes de la prochaine bataille présidentielle se font entendre. Bruno Le Maire, vous êtes à Bercy depuis 2017 et depuis juillet, vous êtes aussi en charge des comptes publics et de la relance. Et en période d'argent magique, finalement, vous êtes plus Père Noël que Picsou. Mais il faudra aussi prononcer à nouveau un jour un mot qui a totalement disparu du vocabulaire gouvernemental, les économies. Avec moi pour ce grand rendez-vous, Nicolas Barré des Échos, Damien Fleurot de CNews. Mais avant, un ancien camarade de votre vie d'avant à droite vous a interpellé cette semaine à propos du plan de relance. On écoute, on regarde.
Monsieur le ministre, vous avez mis en place un plan de relance qui, je partage sur le principe, j'ai envie de connaître davantage le calendrier de sa mise en œuvre. Est-ce que vous pouvez nous garantir que la quasi-totalité des 100 milliards d'euros de ce plan de relance seront mis en œuvre avant l'été 2021 ?
Bruno Le Maire, est-ce que ce plan de relance sera aussi donc un plan d'urgence économique avec une échéance à l'été prochain ?
L'urgence économique, nous y avons déjà répondu. C'est ce que je répondrai à Damien Abad. Nous y avons répondu dès le début du mois de mars. Enfin, je n'ai pas attendu septembre pour, avec le président de la République, le Premier ministre, faire tout ce qui était nécessaire pour sauver les emplois et sauver les entreprises. 460 milliards d'euros
est-ce
qui ont été mis
pas le
pour
plan
sauver
la dernière chance
les entreprises. Ensuite, ce plan de relance, il a vocation à préparer l'avenir. Je reprends la magnifique citation de Camus que vous aviez donnée. Si notre génération a la responsabilité de faire passer la France d'un monde à un autre, du 20e siècle à un 21e siècle qui va être dominé par le digital, la transition technologique et l'impératif de la transition écologique. C'est ça la responsabilité de ma génération politique. Et cette responsabilité, nous comptons bien être à la hauteur. Mais pour finir sur cette réponse et répondre très clairement à Damien Abad, ce plan de relance, il a été présenté aux Français. Nous souhaitons maintenant le mettre en œuvre le plus vite possible
donc
pour qu'ils envoient les résultats le plus
vite
possible.
En janvier, l'argent sera décaissé concrètement, mais jusqu'à quand les entreprises, par exemple, pourront l'utiliser ?
Elles peuvent déjà utiliser tous les dispositifs qui sont à leur disposition. Je pense aux prêts garantis par l'État, je pense aux exonérations de charges, je pense au fonds de solidarité que nous avons maintenu. Et à partir du 1er janvier, vous aurez des dispositifs complémentaires qui vont être accessibles non seulement aux entreprises, mais aussi aux Français. Je pense à la rénovation thermique des bâtiments, par exemple, et à d'autres dispositifs que nous avons mis en place pour que nous passions de la réponse d'urgence, où nous avons fait le maximum, à la préparation de l'avenir, la France de 2030, qui est l'objectif principal de ce plan de relance.
Mais il y a le temps long, puis le temps immédiat, celui du virus. On a entendu Olivier Véran qui dit la crise va encore s'aggraver, la crise sanitaire va encore s'aggraver. Au fond, est-ce que ce plan peut décoller si la crise sanitaire s'aggrave ?
D'abord, on ne prépare pas le temps long si on n'est pas capable de faire face à la crise immédiate. Ça, c'est ce que nous faisons. Il y a des craintes sur l'emploi, il y a des craintes sur les entreprises, il y a des craintes sur les faillites. Nous y répondons et nous faisons le maximum. C'est aussi comme ça qu'on prépare l'avenir. Ensuite, notre obligation à tous, c'est d'apprendre à conjuguer relance économique et vie avec le virus. Tant qu'il n'y a pas de vaccin, de toute façon, nous devrons apprendre à vivre avec le virus, donc respecter les gestes barrières, porter le masque et faire en sorte que l'économie et la protection sanitaire puisse aller de pair. Je voudrais d'ailleurs saluer le sens des responsabilités des Français. Parce que ce que je vois partout où je me déplace en France, c'est qu'il y a bien sûr des exceptions ici ou là, des gens qui réagissent. Alors on les met sous la lumière médiatique parce que, comme ils sont minoritaires, comme toujours, on les met sous la lumière médiatique. La réalité, c'est que l'immense majorité des Français fait preuve d'un sens des responsabilités dans le respect des règles sanitaires que je tiens à saluer.
Nicolas Barré.
Alors, ce plan a été détaillé jeudi. Il a été plutôt bien accueilli, il faut le dire. Il y a néanmoins quelques questions qui se posent, notamment, vous avez eu des discussions avec les banques pour déterminer dans quelles conditions les entreprises qui ont bénéficié de prêts garantis par l'État les rembourseront, à quel taux, sur quelle durée. Est-ce que ces discussions ont abouti avec les banques?
Elles ont abouti hier, dans un esprit constructif, comme depuis d'ailleurs le début de cette crise, avec les banques. Vous avez 600 000 TPE et PME qui sont concernés. C'est des restaurants, c'est des cafés, c'est des commerces qui ont emprunté, il y a maintenant quelques mois, 60 000, 100 000, 150 000 euros, 200 000 en moyenne, à un taux très préférentiel, 0,25% pour un an.
Pour la première
année. Et qui se disent, parce que j'en ai rencontré un certain nombre, mais maintenant on ne peut plus rembourser, il va falloir qu'on étende la durée du prêt, et notre inquiétude, c'est le taux. Je veux les rassurer, nous avons obtenu de la part des banques un taux qui sera compris entre 1 et 2,5% au maximum. Pour être encore plus précis, 1 et 1,5% pour les entreprises qui veulent allonger la durée de leur prêt sur 1 ou 2 ans, 2 à 2,5% pour celles qui étendraient la maturité de leur prêt sur 3, 4 ou 5 ans. Deux précisions très importantes. Ce taux d'intérêt, il inclut la garantie de l'État. Qu'est-ce que ça veut dire? Si les entreprises, si elles allaient dans une agence bancaire et qu'elles demandaient un prêt, on leur dirait « Non, votre situation est trop fragile, il y a la Covid, tout cela est trop dangereux, on ne vous prête pas ». Là, elles ont la garantie qu'on leur prêtera. Cette garantie, elle a un coût, c'est celle de l'État. Elle représente un point sur ce 2 ou 2,5%. Un point par rapport au taux que je viens d'annoncer. La deuxième chose qui est absolument essentielle, c'est que les entrepreneurs ne sont pas engagés sur leurs biens individuels dans ce prêt garanti par l'État. C'est-à-dire, quoi qu'il arrive, on ne va pas aller saisir leurs biens comme ça pourrait être le cas dans une autre forme de prêt. Conclusion de tout cela, nous avons négocié avec les banques des taux particulièrement avantageux pour toutes les TPE et toutes les PME qui souhaiteraient prolonger
c'est
la durée de leur PGE.
Effectivement, très attendu de la part de toutes les entreprises. Nicolas Barré.
L'autre grande question qui se pose, c'est les contreparties. C'est le sujet, les syndicats notamment, la CFDT exige des contreparties des entreprises, notamment en termes d'emploi. La majorité y est aussi attentive. Quelles sont vos lignes rouges dans ce domaine?
Parce qu'il y en a peu des contreparties en fait.
Mais des contreparties, nous en avons déjà demandé. Je tiens quand même à le rappeler. Quand nous apportons 7 milliards d'euros à Air France, nous avons demandé des contreparties. Réduction des émissions de CO2 et suppression de certaines lignes intérieures quand il y a une alternative par le train à moins de 2h30. C'est légitime de demander des contreparties. Les contreparties, ce n'est pas des conditionnalités. Conditionnalité, ça voudrait dire que dès qu'on apporte un euro de soutien aux entreprises, il faut négocier les conditions. Et donc, on perd du temps à négocier les conditions au lieu de relancer l'activité économique et de créer des emplois. Mais dans le débat parlementaire, je suis tout à fait ouvert à ce que nous discutions d'un certain nombre de contreparties qui pourraient être demandées aux entreprises quand elles bénéficient du soutien direct.
Donc, c'est par amendement. Les députés vont amender
arriveront à faire passer les parlementaires de la majorité. Quand les entreprises demandent un soutien direct de l'État et qu'elles se relèvent grâce à ce soutien de l'État, une contrepartie possible, c'est de demander qu'il y ait systématiquement un accord d'intéressement ou de participation. Pour que lorsque ça va mieux pour l'entreprise, ça aille mieux aussi pour les salariés qui pourront bénéficier d'intéressement ou de participation.
Alors vous avez effectivement dit, et vous allez certainement encore le réexpliquer ce matin, pas de hausse d'impôts. Vous dites aucune, qu'il n'y aurait pas d'exception. Et pourtant, à peine vous dites ça, voilà ce qu'on apprend. Et on en parlait ce matin avec ce sont les informations de Nicolas Barré. Vous alliez taxer donc, les complémentaires santé, les mutuelles, de 1,5 milliard d'euros. Alors, il y a d'autres nouvelles comme ça dans les tuyaux?
Mais ce n'est pas une taxation, c'est de la compensation de ce que les mutuelles n'ont pas eu à payer pendant la crise du Covid. Ça n'a absolument rien à voir.
C'est une forme de taxe.
Moi, je suis... Non, ce n'est pas une forme de taxe. C'est une compensation.
C'est une compensation.
Attendez. Soyons très clairs sur ce sujet parce qu'il est vital pour les Français. C'est une compensation que nous demandons aux complémentaires santé parce qu'elles n'ont pas eu, pendant plusieurs mois, à payer un certain nombre de prestations. C'est une question de justice et une question d'équité. En revanche, sur les impôts, tant que je serai ministre de l'économie et des finances, il n'y aura pas d'augmentation des impôts pour les Français.
C'est une manière de dire, maintenez-moi à ce poste encore longtemps, parce que sinon après, notre équipe va être problématique, c'est ça?
Ça fait plus de 3 ans et demi que j'y suis à ce poste, donc ce n'est pas vraiment le sujet. Le sujet, c'est garantir aux Français qui sont sceptiques là-dessus, je le sais, parce qu'ils ont eu tellement de paroles données sur ce sujet et tellement d'augmentation d'impôts dans le même temps qu'ils ont du mal à nous croire. Je veux leur redire que tant que je serai ministre de l'économie et des finances, il n'y aura pas d'augmentation d'impôts et que nous tiendrons nos engagements de baisse d'impôts, suppression de la taxe d'habitation d'ici 2023, baisse de l'impôt sur les sociétés à 25% pour toutes les entreprises d'ici 2022. Et je rappelle à tous ceux qui me réclament à cor et à cri des augmentations d'impôts, parce qu'il y en a beaucoup.
Y compris dans la majorité.
Il y en aura dans la majorité pendant les débats budgétaires.
Les chiffres de CDE qui viennent de tomber sont sans appel. Nous restons le pays développé où la pression fiscale est parmi la plus forte. Donc quand on a une pression fiscale qui est aussi forte, qu'on a un taux d'imposition qui est aussi élevé, la seule ligne de conduite valable, c'est de garantir aux Français qu'on ne touchera pas à leurs impôts sauf pour les baisser.
Damien Fleurot.
Justement, le plan mis sur les entreprises, vous en avez parlé, la baisse de 10 milliards des impôts de production dont le produit sert à financer les collectivités locales. Ce projet existait avant le confinement, il a été placé dans le plan de relance. Est-ce que ce sera la seule mesure pérenne ?
C'est la principale mesure pérenne, la baisse des impôts de production. Pourquoi est-ce que nous le faisons ? Parce que nous avons une ambition de relocalisation industrielle. Et que nous essayons tout simplement, avec le président de la République, avec le Premier ministre, de mettre en accord nos ambitions et nos actes. Si vous voulez que l'entreprise industrielle dans le secteur de la pharmacie, de la santé, de l'agroalimentaire ouvre de nouveaux bâtiments et embauche de nouveaux ouvriers, elle ne peut pas continuer à payer des impôts de production qui sont deux fois plus élevés que la moyenne européenne, sept fois plus élevés qu'en Allemagne, qui est notre principal partenaire et concurrent. Donc oui, cette baisse d'impôts de production, elle est pérenne. Elle est indispensable pour réussir cette relocalisation industrielle et elle est la principale mesure pérenne du plan de relance.
On se retrouve dans quelques instants avec Bruno Le Maire. À tout de suite.
10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Damien Fleurot, Mickaël Darmon.
Et avec notre invité Bruno Le Maire, donc ministre des Finances de la Relance, plan de relance ou plan de la dernière chance, Nicolas Barré.
Du fait de la crise, on attend peut-être 800 000 chômeurs de plus. Le Premier ministre Jean Castex a dit que le plan de relance allait permettre de créer 160 000 emplois l'année prochaine. Donc on voit bien qu'il y a un écart. On voit des entreprises d'ailleurs qui parlent de plans de licenciement à venir parce que les dispositifs que vous avez mis en place ne suffiront probablement pas à absorber les sureffectifs. Comment est-ce que vous allez gérer cette période qui va être très difficile sur le plan social ?
Nous entrons effectivement dans la période la plus difficile de la crise. Nous avons amorti, c'était le premier temps, le choc a été très brutal. La réaction de l'État a été maximale. Nous entrons maintenant dans cette période, entre maintenant et le début de l'année prochaine, où les entreprises font leur compte, se disent ben « voilà, on n'a pas de perspective de chiffre d'affaires, donc on est obligé de réduire les effectifs ». Par conséquent, nous nous attendons, dans les semaines et les mois qui viennent, à un nombre de licenciements élevé, et à des faillites. Nous faisons tout pour réduire le plus possible le nombre de faillites. Tout pour réduire le plus possible
le
nombre de licenciements. Vous voyez, nous nous battons, par exemple, nous sommes battus sur Conforama, sur Camailleux, nous battons sur Courtepaille, nous battons pour soutenir Brittany Ferries. Nous essayons à chaque fois de trouver des solutions
pour
chaque entreprise.
Combien d'emblèmes emblématiques, certaines plus anonymes, vont mourir ?
Je ne vais pas vous donner de chiffres, je dis simplement, avec le discours de vérité qui a été le mien depuis le début de cette crise, oui, nous entrons dans la période la plus difficile. Et c'est pour ça aussi que nous avons maintenu un certain nombre de dispositifs. Nous avons maintenu le chômage partiel pour l'hôtellerie, les cafés, les restaurants, l'événementiel, le monde de la culture qui est si essentiel pour la France. Parce que nous savons très bien que ça va être difficile pour eux et qu'il vaut mieux pour l'instant garder un dispositif de chômage partiel. Ce que je veux dire aux Français, c'est deux choses très simples. Nous continuerons à faire le maximum pour les protéger. Et la deuxième chose, la plus importante, nous allons nous en sortir. Il faut regarder un tout petit peu plus loin et se dire qu'à échéance de 2 ans, début 2022, un peu moins de 2 ans, nous aurons retrouvé le niveau de développement économique avant la crise. Qu'est-ce qui a provoqué l'effondrement de l'économie française ? Ce n'est pas l'économie française elle-même, c'est un virus. Les fondamentaux de l'économie française que nous avions redressés depuis 3 ans avec Emmanuel Macron restent excellents. Je dis pas bon. Excellent. Nous avions un niveau de croissance début 2020, 1,5. Nous étions le pays le plus attractif en Europe pour les investissements étrangers. Nous avions ramené le chômage à moins de 8%. Eh bien, d'ici 2 ans, c'est l'engagement que je prends, nous aurons retrouvé ce niveau de développement économique parce que la France a tout pour réussir. Et le plan de relance n'est pas un plan de la dernière chance. C'est un plan de réinvention de l'économie française, d'accélération de nos transformations pour avoir, à la fin de la crise, une économie plus décarbonée et plus compétitive.
Alors Bruno Le Maire, il y en a un pour qui quand même le plan de relance a un ennemi, c'est l'égalitarisme. On écoute, on regarde.
Au prix de cette passion égalitariste, vous découragez la partie de la population la plus imaginative, la plus entreprenante, la plus volontaire, la plus énergique, au détriment de tous. Parce qu'à l'arrivée, et je vais vous faire cet aveu, moi je crois au vertical et je ne crois pas à l'horizontal.
Voilà qui est dit. Et en fait, le vertical, vous y croyez aussi au fond au gouvernement, parce qu'au fond, tout tombe encore d'en haut avec ce plan de relance. Pourquoi, par exemple, ne pas avoir transféré aux communes et aux territoires les fonds du plan de relance, puisqu'officiellement, les territoires, maintenant, sont écoutés et on leur fait confiance?
D'abord, si vous me permettez, Michel Darmon, peut-être pour répondre à Nicolas Sarkozy, moi, je crois à l'égalité, pas à l'égalitarisme. Mais je crois aussi qu'il faut être capable d'encourager les meilleurs, d'encourager nos universités, nos écoles qui réussissent. Et je voudrais rendre hommage de ce point de vue-là à Nicolas Sarkozy, parce que regardez, pour rappeler cette touche positive sur la France et son attractivité, les derniers classements de Shanghai montrent que grâce à une politique de long terme, qui a été lancée par Nicolas Sarkozy en 2009 avec les plans d'investissement d'avenir, l'université Paris-Saclay rentre dans les 15 premières universités mondiales. Donc quand on fait des choix stratégiques sur le long terme, par exemple, pour l'innovation, les nouvelles technologies, l'éducation, ça fonctionne. Et enfin, pour répondre à votre question, parce qu'elle était importante, ma méthode a été complètement différente. Il n'y a aucune verticalité. Ça fait 6 mois que nous travaillons sur ce plan de relance. Je dis bien nous. Nous, c'est qui? C'est mes services. C'est les économistes. C'est les partenaires sociaux. C'est Laurent Berger ou Philippe Martinez. C'est des chefs d'entreprise. C'est les patrons de PME. C'est les salariés que j'ai rencontrés sur le terrain. Il n'y a pas moins vertical que le plan de relance. Il procède d'un travail de terrain intense qui a été fait depuis 6 mois.
Alors qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent au fond, c'est la ligne de... Qu'est-ce
que vous répondez, Bruno Le Maire ? Une bonne nouvelle que vous avez rappelée hier, c'est quand tout d'un coup vous découvrez que plus de 70% des Français soutiennent ce plan de relance.
Bruno Le Maire,
pourquoi ? Parce qu'il ne tombe pas d'en haut, il vient du terrain.
Et certains disent qu'il vient du MEDEF. En fond, ce sont les demandes du MEDEF depuis très longtemps. Que finalement existent dans ce plan de relance. Qu'est-ce que vous leur répondez ?
Ah bah, je ne savais pas que le MEDEF, par exemple, voulait une augmentation de l'allocation de rentrée scolaire. Je ne le savais pas, je le découvre. Je ne savais pas que le MEDEF voulait qu'on ramène le prix du ticket restaurant pour les étudiants de 3 euros à 1 euro. Je ne le savais pas, je ne l'ai jamais vu dans leur programme. Donc arrêtons avec ces caricatures. Je le redis, 6 mois de travail, 6 mois de consultation, 6 mois de dialogue. J'ai eu cette méthode pour le projet de loi sur la croissance et la transformation des entreprises. J'ai eu la même méthode pour la mise sur pied du plan de relance que j'ai proposé au président de la République et au Premier ministre. Et je vais vous dire, j'aurai exactement la même méthode sur le plus grand défi que nous avons désormais, l'exécution du plan de relance. Toutes les semaines, nous allons voir les fédérations professionnelles, les représentants syndicaux, pour nous assurer de la bonne exécution.
Damien Fleurot.
Vous nous parlez de ce plan de relance qui prépare l'avenir, la France de 2030, des petits réacteurs nucléaires, des batteries électriques, l'hydrogène par exemple. Et dans le même temps, on a la nomination d'un haut commissaire, François Bayrou, qui n'est associé en rien à ce plan de relance. À quoi sert-il ce haut commissaire? Comment est-ce qu'il se projette dans l'avenir s'il y a déjà le plan de relance que vous pilotez?
Mais le haut commissaire, il a vocation à embrasser des sujets beaucoup plus larges. Ce n'est pas simplement l'économie, c'est aussi la démographie, c'est aussi l'éducation. Et moi, j'accueille la nomination de François Bayrou avec beaucoup de plaisir.
Ah, on
et en lui apportant
diplomate.
Un soutien, ce n'est pas l'ancien diplomate, c'est le ministre des Finances qui vous parle et qui vous dit que plus il y a d'intelligence dans une pièce, plus il y a de compétences, plus il y a de bonne volonté, mieux on se porte. Nous sommes dans un moment de transition radicale comme la France n'en a pas connu sans doute depuis plusieurs décennies, pour ne pas dire davantage. Et je pense qu'on n'est jamais trop de bonne volonté pour réussir cette transition.
Nicolas Barré.
La loi de simplification, dite ASAP, on a pris un acronyme anglo-saxon, As Soon As Possible, doit accompagner le plan de relance. Elle donne au préfet la possibilité de modifier le droit de l'environnement pour faire accélérer des projets. Évidemment, les écolos râlent. Qu'est-ce que vous leur répondez?
Je leur réponds qu'on peut parfaitement conjuguer simplification et défense de l'environnement. Mais la simplification d'un certain nombre de procédures, l'accélération d'un certain nombre de procédures est une condition du succès du plan de relance. Prenez la question des appels d'offres. Aujourd'hui, vous avez un plafond à 70 000 euros. Ouais. L'appel d'offres, ça prend du temps. Est-ce qu'on peut relever ce plafond? Je sais que ça pose des problèmes de droit de la concurrence.
Oui, mais j'y suis favorable. Pas, quoi.
Et nous allons, à la demande du Premier ministre, dans les semaines qui viennent, faire un travail pour examiner toutes les règles qui peuvent être simplifiées pour accélérer le décaissement des projets et donc la création d'emplois pour les jeunes, pour ceux qui auront été licenciés dans des entreprises et qui devront retrouver un emploi. Il faut simplifier les procédures. C'est un des enjeux des prochaines semaines.
Cela dit, les experts sur la transition écologique disent qu'il faut 100 milliards par an pour pouvoir vraiment verdir l'économie. Il y a 40 milliards dans le plan de relance. Et puis, on s'aperçoit également qu'il y a 2 milliards pour l'isolation et la rénovation des logements de particuliers. C'est deux fois moins que le plan Hulot en 2018. Pourquoi il n'y a pas plus d'efforts sur ce sujet?
Vous savez, j'observe avec parfois un peu de surprise tous ceux qui vous disent qu'il ne faut pas 100 milliards, il en faut 200 ou 300 ou 400. Mais ils n'ont pas compris que ce n'était pas du tout l'enjeu. L'enjeu, c'est d'avoir des projets chez moi, à Danville, dans l'Eure, ou à Célestat, en Alsace, ou à Lille, dans le Nord, où j'ai rencontré Martine Aubry, ou à Paris, ou dans le Sud-Ouest, ou en Bretagne, n'importe où, pour qu'il y ait des bâtiments qui soient rénovés, qu'il y ait des emplois qui soient créés, qu'il y ait de l'activité qui redémarre. Ce n'est plus l'argent le problème. Le vrai problème maintenant, c'est les projets et leur réalisation la plus rapide possible. Les Français voient cette valse des milliards avec stupéfaction. Oui, moi, je voudrais qu'ils voient le changement sur le terrain, dans leur vie quotidienne. Prenez l'exemple de la rénovation énergétique des bâtiments. Nous avons fait des choix de simplification, pour le coup, majeurs. Aujourd'hui, un propriétaire bailleur pourra bénéficier de MaPrimeRénov'. Il pourra bénéficier du soutien de l'État. Un syndic de copropriété pourra faire rénover les combles collectivement, donc avec plus d'efficacité et plus de travaux, là où hier, ça n'était pas possible. Donc nous allons vers cette simplification, et l'enjeu aujourd'hui n'est plus de savoir si on est à 50, 100, 150, 200 milliards, ces chiffres ne veulent rien dire pour les Français, ils doivent juste savoir que l'économie redémarre et que nous créons des emplois.
On se retrouve en quelques instants avec Bruno Le Maire pour la suite de ce grand rendez-vous.
10h, 11h, le grand rendez-vous européen, avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Damien Fleureau, Mickaël Darmon.
Et on se retrouve avec Bruno Le Maire qui est à la relance. Est-ce que ce plan va réussir vraiment à transformer donc l'économie? Vous savez que Jean Castex ne voit pas d'un mauvais œil le projet de fusion entre Veolia et Suez, qui sont deux géants français de l'eau et du recyclage des déchets. Plusieurs élus de tous bords politiques prennent position contre au motif que des emplois seraient menacés. Alors cette semaine au micro de Sayama Brook, Antoine Frérot, le PDG de Veolia, voulait rassurer. On écoute.
Notre projet, il est win-win-win. Français à 100%, emploi à 100% et un avenir avec un fort élan et une magnifique aventure pour tout le monde pour au moins 10 à 15 ans.
Alors on sait que toute fusion détruit quand même des emplois. Vous avez des assurances? Comment on peut effectivement avoir confiance justement dans ce propos? Bruno Le Maire.
D'abord, je voudrais peut-être qu'on explique aux Français,
en quelques mots, bien sûr,
on l'a présenté. Oui. À l'origine, il y a une grande entreprise française qui s'appelle Engie, qui souhaite concentrer son activité avec l'accord de l'État, qui a 23% d'Engie, sur les énergies renouvelables et les réseaux. Ils ont raison, je pense que c'est un bon choix stratégique de son président Jean-Pierre Clamadieu. Mais Engie dispose de 30% de Suez. Donc pour recentrer son activité, elle veut céder ses 30% dans Suez. Très bien, je pense que c'est cohérent par rapport à sa stratégie. Nous, à quoi est-ce que nous devons veiller? Il y a une proposition qui est faite par Veolia, il peut y en avoir d'autres. Elles seront toutes examinées avec la même équité, car l'État doit être garant de l'équité dans cette opération. Mais nous regarderons un certain nombre de conditions, il y en a au moins trois qui sont impératives. La première, c'est l'emploi. Il ne peut pas y avoir d'opération réussie de ce type-là si nous n'avons pas de garantie sérieuse.
Vous avez déjà vu une fusion qui ne sacrifie pas d'emploi?
C'est bien parce que je suis averti de ce que peuvent donner des fusions, que je place en première condition la préservation de l'emploi en France. La deuxième condition, c'est que, quelle que soit la proposition, l'actionnaire majoritaire doit être français. Nous voulons un actionnariat majoritairement français, qui développe l'empreinte industrielle française et qui développe l'emploi industriel de Suez en France. Ce qui est le cas, effectivement, avec Veolia, cette condition, elle est parfaitement remplie dans le cadre de l'offre de Veolia. Puis la troisième condition, bien entendu, parce que comme l'État a une participation dans Engie, il est financièrement intéressé à cette opération, c'est que la valorisation patrimoniale pour l'État soit satisfaisante. Donc vous voyez, nous regardons avec... nous regardons avec un souci d'équité l'offre de Veolia ou les autres offres qui pourraient venir, mais les conditions que je viens d'indiquer sont des conditions impératives.
Donc le nouveau monde, l'emploi, pour vous, c'est un monopole.
L'emploi, l'empreinte industrielle française et l'actionnariat majoritairement français et la valorisation patrimoniale.
Mais sur l'emploi et sur la valeur proposée par Veolia, est-ce que l'offre est satisfaisante ?
Toute offre peut toujours être améliorée.
Nicolas Barré.
Alors, le
plan de relance doit être validé à l'échelle européenne.
Doit être validé au niveau européen. Est-ce qu'il y a vraiment une coordination entre Européens ? Parce qu'on voit bien qu'il y a différentes philosophies de plan de relance. En Allemagne, on privilégie plutôt la relance de la consommation. Nous, ce n'est pas notre philosophie. Comment est-ce que ça se coordonne ?
D'abord, c'est normal que chaque État ait une philosophie différente de son plan de relance en partant de sa situation. On sait bien, en Allemagne, vous m'avez entendu souvent à votre micro dire depuis plusieurs années, l'Allemagne
dépense plus
et investisse plus. Mmh. Ils le font. On doit se réjouir de voir que l'Allemagne, qui a déjà un très bon niveau de compétitivité, qui exporte massivement, se dit, tiens, il faut qu'on soutienne la demande et la dépense. Nous, notre problème, il est différent. Notre problème, nous l'avons souligné avec Emmanuel Macron depuis 2017, c'est un problème de qualité de nos produits, d'offres, de montée en gamme, d'innovation, de technologie. Et on est en train de réussir ce pari et nous allons le réussir. La coordination, oui, elle existe. Je serai le 11 septembre à Berlin et nous allons regarder comment conjuguer nos efforts. Un exemple, l'hydrogène. Nous ne refaisons pas l'erreur avec l'hydrogène que nous avons faite sur les panneaux photovoltaïques. Où en gros, on a donné de l'argent pour financer des panneaux solaires chinois. On a subventionné la consommation d'électricité produite par des panneaux solaires sans regarder d'où venaient ces panneaux solaires. Et donc, on a tué l'industrie du panneau solaire européenne et subventionné l'industrie du panneau solaire chinois. Il est hors de question qu'on refasse la même chose. Sur l'hydrogène, nous ne finançons pas l'achat d'hydrogène. Nous finançons la réalisation de produits industriels, par exemple de piles à combustible, par exemple d'électrolyseurs qui permettent de séparer l'hydrogène de l'oxygène, par exemple de réseaux de distribution. Et nous allons regarder avec l'Allemagne comment est-ce qu'on peut conjuguer les 7 milliards que la France met sur ce grand projet d'hydrogène avec les 9 milliards que l'Allemagne met de son côté. Et donc, j'espère bien que nous arriverons à trouver un projet commun, franco-allemand,
Bruno Le Maire,
puis européen, sur l'hydrogène.
Bruno Le Maire, donc si on vous comprend bien et si on écoute bien et on écoute bien ce que vous dites depuis le début de cette émission, au fond, ce plan de relance, c'est plutôt un plan de compétitivité qu'un vrai plan de relance d'une économie. C'est
parce
ça que vous voulez arriver.
Michel Darmon, tout simplement parce que le soutien à la demande, il a déjà été apporté. Enfin, je rappelle que nous mettons près de 30 milliards d'euros sur le chômage partiel en 2020. Qu'est-ce que c'est que du soutien à l'emploi si ce n'est du soutien à la demande ? On protège le pouvoir d'achat des Français et on protège leurs emplois. Là aussi, les études sont absolument sans appel. Ceux qui ont le moins perdu dans la crise aujourd'hui, c'est les ménages. Ceux qui ont le plus payé, c'est l'État et c'est les entreprises.
Vous êtes en train de dire que ceux qui risquent de perdre le plus à l'avenir, ce sont les ménages, parce que les licenciements vont être nombreux, que les faillites vont être nombreuses.
Non,
le message qu'elles reçoivent, c'est au fond...
Laissez-moi peut-être juste terminer sur la philosophie. On a soutenu la demande, on a soutenu l'emploi, on a protégé le pouvoir d'achat des Français. La preuve, ils ont économisé près de 85 milliards d'euros sur leur livret A et sur leur compte courant. Maintenant vient le temps où il faut préparer l'avenir des Français, investir sur l'hydrogène, sur la décarbonation de notre industrie, sur les nouvelles technologies, sur la santé à distance, sur l'intelligence artificielle, sur le calcul quantique, sur tout ce qui fera la puissance française au XXIe siècle.
Nicolas Barré.
Alors, on s'éloigne un peu du plan de relance, mais pas complètement. Très tôt, vous avez décelé les signes d'une fracture entre le pouvoir et les territoires qui a abouti, évidemment, à la crise des Gilets jaunes. Alors, lesquels Gilets jaunes veulent relancer leur mouvement en septembre. Est-ce que, selon vous, les raisons de cette colère sont toujours présentes ?
La colère à la relance aussi.
Je vais vous surprendre, mais je ne crois pas. J'avais effectivement, à plusieurs reprises, vu monter, notamment dans ma terre d'élection, le département de l'Eure, la colère de tous ceux qui disaient « on s'en sort pas, vous avez fait la taxe carbone plus l'alignement du prix du diesel sur l'essence, ça nous coûte trop cher, nos transports nous coûtent trop cher ». Et effectivement, ça a conduit au mouvement des Gilets jaunes que chacun connaît.
Qui est terminé.
Aujourd'hui, non, il y aura toujours des réactions sporadiques ici ou là. Jusqu'à la fin du quinquennat, vous aurez des mouvements sporadiques ici ou là d'opposition qui d'ailleurs très souvent se greffent sur des mouvements beaucoup plus radicaux qui ne veulent qu'une chose, c'est la chute du régime.
Il y a aussi un mouvement social à l'initiative de syndicats à la rentrée.
Ces mouvements-là doivent être combattus. Ensuite, il y a quelque chose de totalement différent qui est l'inquiétude sociale légitime de tous ceux qui se disent « on peut perdre notre emploi ». Mais ce que je vois aujourd'hui, dont je veux témoigner comme ministre de l'économie et des finances, dans mes contacts avec les organisations syndicales, les salariés, les ouvriers, les chefs d'entreprise, les patrons de PME, les commerçants, c'est une volonté collective de s'en sortir. Voilà ce qui domine aujourd'hui en France. Pas la colère, la volonté collective et responsable de s'en sortir. Et je vais vous dire, quand j'ai présenté le plan de relance devant les commissions de l'Assemblée nationale, l'économie, les finances et les affaires sociales, qu'est-ce qui m'a frappé ? C'est la qualité du débat qu'on a eu. Le plan de relance permettait à chacun de se positionner. Vous aviez les gens sur l'échiquier de gauche qui disaient « il n'y a pas assez pour les plus fragiles, pas assez pour la demande ». Vous aviez les Verts qui disaient « il n'y a pas assez pour l'environnement ». Et puis vous avez Éric Woerth, président Les Républicains de la Commission des Finances, qui a dit dès le départ « moi je voterai ce plan de relance ». Donc on voyait une volonté collective de saisir ce plan de relance pour s'en sortir et une redéfinition aussi des espaces politiques.
Les organisations syndicales qui appellent à une journée de grève à la rentrée en septembre, elles ne sont pas responsables ? Elles ne sont pas dans une volonté de vouloir s'en sortir ?
Je vous dis que ce que je constate, c'est un sens des responsabilités de tous aujourd'hui, que ce soit les représentants syndicaux, les représentants patronaux, les responsables politiques, collectivement ce qui domine, vraiment ce qui domine, c'est le sens des responsabilités, la volonté de s'en sortir.
Là, vous parlez effectivement des acteurs publics.
Et s'agissant des grèves, moi j'ai déjà eu l'occasion d'en parler avec Philippe Martinez, la grève à la SNCF, je ne la comprends pas. Je lui ai dit, je pense que c'est bien de se parler avec beaucoup de franchise, je ne la comprends pas. Nous mettons près de 5 milliards d'euros pour soutenir la SNCF. Nous allons l'aider à éponger les pertes qu'elle a eu à subir pendant la crise sanitaire. On va investir dans le fret ferroviaire.
Voilà,
on va rénover des lignes, on va ouvrir des petites lignes et on va ouvrir probablement un train de nuit entre Paris et Nice. Un investissement de près de 5 milliards d'euros, c'est quand même pas rien. Est-ce que ça légitime une grève ? Non. Je pense que l'énergie de tous serait mieux employée à essayer de redresser la SNCF, d'utiliser l'argent que nous mettons sur la table pour rénover ce grand service public français. Mmh. Je pense que l'énergie serait mieux employée.
Alors, on voit, effectivement, on entend hein, tous ces plans sociaux, on a entendu toute cette colère sociale. Au fond, on se demande également, tout cet argent qui est donc mis sur la table, à un moment donné, il faudra quand même le rembourser d'une certaine manière. On entend parler d'économie sur les retraites, sur le social. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet ? Comment va-t-on payer et qui va payer ?
D'abord, il faudra rembourser cette dette, Mickaël Darmon. Et je voudrais, une bonne fois pour toutes, qu'on évacue cette idée baroque qu'on peut avoir une dette et ne pas la rembourser. On ira expliquer ça au ménage modeste qui s'est endetté, à qui on dit « attendez, vous êtes en situation de surendettement, il faudra rembourser ». Pourquoi lui devrait rembourser et puis l'État, lui, ne rembourserait pas ? Je ne vois pas ensuite comment est-ce que vous allez arriver à lever de l'argent sur les marchés si vous dites aux investisseurs « attendez, on vous prend de l'argent, mais ne vous inquiétez pas, on ne vous le remboursera jamais ». Donc oui, on devra rembourser cette dette. Comment ? Un, par la croissance. Et c'est le choix que nous faisons, très cohérent, de séquencer les décisions. Maintenant, on fait de la dépense publique. Demain, il faudra effectivement rembourser grâce à la croissance. La deuxième chose qui permet de rembourser, c'est de bien tenir ses finances publiques. Et moi, je veux saluer la décision qui a été prise par Jean Castex de dire sur les emplois publics, alors que tout le monde nous appelait à faire plus d'emplois publics en 2021, il n'y a pas d'augmentation d'emplois publics dans la fonction publique d'État en 2021. C'est une décision courageuse qui montre que nous restons responsables sur les finances publiques. Puis la troisième façon de rembourser, c'est les réformes structurelles. Elles restent indispensables.
Donc il faudra bien rogner sur ça.
Elles restent indispensables. Il ne s'agit pas de rogner. Oui, Mickaël Darmon, une réforme structurelle des retraites en France reste nécessaire. Oui, nous ne pouvons pas continuer à avoir un régime de retraite aussi déséquilibré financièrement qu'il l'est. Parce que ça n'est pas responsable vis-à-vis de tous ceux qui rentrent dans la vie active et qui ont droit, comme nous, comme vous, comme moi.
Donc là, vous ne parlez pas de réforme systémique, comme le parle le président de la République. Là, vous dites qu'il faut revenir à l'âge pivot, c'est ça ?
Mais vous savez, ce systémique, paramétrique, ces mots qui sont d'abord très moches, il faut dire ce qui est, ne veulent pas dire grand-chose. Sur les retraites, il y a un problème financier. C'est-à-dire qu'on dépense plus qu'aujourd'hui, on peut collecter comme cotisation. Donc
comment
il faut régler ce problème financier.
Comment
et puis, il y a un problème sur lequel le président de la République s'était engagé en 2017, de simplicité, d'équité de ce régime. Mmh. Et moi, je soutiens totalement le projet de réforme de retraite par points, parce que je pense qu'il est plus lisible et plus simple. Ensuite, quel doit être le calendrier? Mais c'est au Premier ministre et au Président de la République seul d'en décider. Moi, je vous dis juste, comme responsable politique, comme ministre de l'économie et des finances, pour rembourser cette dette, il faut de la croissance, de la responsabilité sur les finances publiques et des réformes structurelles, dont la réforme des retraites.
En un mot, pour comprendre, il faut remettre cette idée de l'âge pivot sur la table.
C'est pas à moi, une fois encore, de dire ce qu'on remet sur la table et à quel moment. Par contre, ma responsabilité, parce que nous avons une dette qui aujourd'hui atteint les 120%, c'est d'expliquer aux Français quelle est notre stratégie de long terme pour réduire cette dette. Et pourquoi est-ce qu'il est indispensable de réduire cette dette? Tout simplement parce que si dans 2 ans, 3 ans ou 5 ans, il y a une nouvelle pandémie, on sera bien content d'avoir gardé des ressources budgétaires pour à nouveau soutenir l'emploi, à nouveau soutenir nos entreprises. Donc le plus élémentaire sens des responsabilités doit nous obliger à avoir une stratégie de réduction de la dette sur le long terme. Je le redis, croissance, responsabilité dans les finances publiques, réformes structurelles, dont les retraites.
Dernière partie de ce grand rendez-vous dans quelques instants. A tout de suite.
10h, 11h, le grand rendez-vous européen avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Damien Fleureau, Mickaël Darmon.
Et Bruno Le Maire qui est avec nous pour cette encore dernière partie du grand rendez-vous. C'était vendredi au Panthéon. On écoute, on regarde.
Il n'y aura jamais de place en France pour ce qui, souvent au nom d'un dieu, parfois avec l'aide de puissances étrangères, entendent imposer la loi d'un groupe. Non.
Un reproche est fait au chef de l'État régulièrement. Il n'investit pas assez sur le régalien. Il n'incarne pas assez les questions d'ordre et de sécurité. Est-ce que vous comprenez ce reproche? Est-ce qu'il faut investir plus sur ce sujet?
Je trouve que c'est un mauvais reproche qu'on fait au chef de l'État. Il a toujours été clair, il l'a été en particulier dans ce discours au Panthéon sur sa vision de la République. Elle est une et indivisible. Il n'y a pas de place pour le séparatisme, pas de place pour les groupes, pas de place pour ceux qui veulent contester au nom de lois religieuses les lois de la République. Après qu'il faille le dire davantage, expliquer encore plus, défendre un certain nombre de principes, certainement. On ne défend jamais suffisamment les principes de la République. Jamais. Donc plus nous en ferons sur ce sujet, plus nous serons mobilisés, mieux ce sera. Mais je pense vraiment qu'on ne peut pas en faire grief au président de la République.
Damien Fleureau.
Bruno Le Maire, on a assisté il y a quelques jours à une passe d'armes au sommet de l'État sur la façon de nommer cette délinquance, ces incivilités, ces actes de violence entre Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, et Éric Dupond-Moretti, le ministre de la Justice. De quel côté êtes-vous? Faut-il nommer? Faut-il parler d'ensauvagement, clairement, de la société ou pas?
Je suis de votre côté, Damien Fleureau.
Et alors, lequel?
De votre côté.
En l'occurrence.
De celui des mots que vous venez de prononcer. Il y a de l'insécurité, il y a des actes de délinquance, il y a des crimes, il y a des homicides, il y a des mots pour nommer les choses. Utilisons-les. Et surtout, au-delà des mots, parce que le débat sémantique ne passionne pas les Français, tirons-en les conséquences. En termes de défense de la sécurité, qui est, je le rappelle, le premier droit de la République, et de sanctions. Voilà tout ce que j'ai à dire là-dessus.
On ne sanctionne pas assez? On voit bien que le débat en cette rentrée, il est sur une justice, une chaîne de justice qui pourrait, au fond, qui ne fonctionne pas assez bien. En tout cas, c'est ce que souvent on reproche les policiers ou même tout simplement les victimes. On ne sanctionne pas assez, Bruno Le Maire.
Mais le débat est beaucoup plus large que ça, je crois. Mickaël Darmon, c'est le débat sur l'autorité dans les démocraties occidentales, notamment en France. Comment est-ce que nous garantissons le respect de l'autorité sans laquelle il n'y a pas de liberté? Tous ceux qui pensent que la liberté doit être pure, simple et absolue oublient qu'il n'y a pas de liberté sans autorité. Et tout le défi pour nous, et c'est vrai en France, c'est vrai dans d'autres pays, c'est de garantir le respect de cette autorité. Pour reprendre les mots de Damien Fleureau, quand il y a un acte de délinquance, il doit être puni. Si c'est un acte de délinquance grave, il doit être sévèrement puni. Et n'importe quel citoyen, où qu'il habite, qu'il soit dans le quartier de la Madeleine à Évreux, qu'il soit dans une commune rurale,
allez-y,
ou qu'il soit dans une grande métropole...
On a le sentiment que vous ne voulez pas tout dire.
Mais non, ce n'est pas plus ou moins. C'est l'assurance que la sanction tombera.
Et qu'elle sera effective.
Où que ce soit
parce
en
que
France,
ça n'est pas le cas aujourd'hui, assez, selon vous.
Quel que soit l'individu qui soit concerné, qu'on ait l'assurance que la sanction tombera, qui sera une sanction juste, équitable et nécessaire. C'est cette garantie-là que nous devons donner aux Français. Oui. Aujourd'hui, ils ont le sentiment, à tort ou à raison, que cette garantie-là de respect de l'autorité, des règles, elle n'est pas donnée à tous les Français. Eh bien, le défi pour nous, c'est de leur garantir que cette autorité-là, ce respect des règles, sera garanti sur tout le territoire, en toutes circonstances, quelle que soit la personne, quel que soit le lieu. Ça s'appelle la République.
Bruno Le Maire, la droite se cherche un candidat pour la présidentielle. Le maire de Nice, Christian Estrosi, dit qu'il l'a trouvé, en la personne d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce que vous en pensez?
Je pense que Christian Estrosi, c'est Saint-Jean Bouche d'Or. C'est celui qui dit la vérité que personne ne veut voir. Qu'est-ce qu'il dit, Christian Estrosi? Il dit tout simplement, voilà, il n'y a pas de candidat qui se détache à droite. C'est la première chose qu'il
Donc
dit.
Donc le candidat de la droite, c'est Macron.
C'est un constat que, je pense, tout le monde peut faire. Il dit une deuxième chose qui est plus intéressante, que, dans le fond, a dit Éric Woerth, au moins sur les sujets économiques et financiers, quand, en début de débat sur le plan de relance, il dit « je voterai le plan de relance ». La réalité politique, c'est qu'entre les Républicains aujourd'hui et la politique que nous menons en matière économique, fiscale, financière, il n'y a pas d'espace.
Mais est-ce que vous lancez un appel aux électeurs de la droite à rejoindre Emmanuel Macron comme le fait aujourd'hui Christian Estrosi?
Moi, je ne veux pas me mettre dans le débat de personne. Je veux simplement dire que dans ces mouvements de transition radicale dans lesquels nous sommes, où nous entrons dans un monde totalement nouveau, dominé par les nouvelles technologies, par les géants du numérique, où les évolutions technologiques bouleversent notre quotidien, où il y a une aspiration à la transformation écologique de notre modèle qui est puissante. Chacun doit se poser la question, qu'est-ce que fait le gouvernement? Est-ce que je m'y retrouve? Tous ceux qui s'y retrouvent, au moins pour la partie qui est la mienne, c'est-à-dire la politique économique que nous menons, plutôt que de chercher ailleurs mieux que ce qu'ils ont déjà en action dans le gouvernement, qu'ils nous soutiennent.
Mais Bruno Le Maire, d'accord, le nouveau monde, on a compris, les nouveaux logiciels. Enfin, il y a quand même un code qui ne bouge pas, c'est qu'au premier tour, il faut réussir à rassembler et être qualifié pour le second tour. Aujourd'hui, on voit bien, et quelque part c'est peut-être le sens de cette consigne qu'a donné Emmanuel Macron d'élargir le socle, de créer une sorte de coalition, d'un socle central, qui a peut-être un risque d'être éliminé dès le premier tour. Parce que les électeurs de la droite disent on ne considère pas que Emmanuel Macron est notre candidat, et les électeurs de la gauche sont partis. Comment vous faites?
D'abord, je veux redire ce que j'ai déjà eu l'occasion de dire, c'est que je soutiendrai Emmanuel Macron en 2022.
Ça, on l'a entendu.
Et que je souhaite sa réélection. Pour garantir sa réélection, effectivement, il est sage d'élargir son organisation politique. C'est le projet de grande coalition ou de grand mouvement. Moi, j'y suis favorable et je souhaite qu'on puisse y travailler dans les prochains mois. Mais la question essentielle, si nous avons un travail, nous, aujourd'hui, à faire, c'est de définir plus clairement ce que nous sommes, nous, la majorité présidentielle, et surtout, ce que nous voulons pour les Français. Quelle société est-ce que nous voulons? Quelle organisation politique? Quelles institutions? Puisque j'estime que nos institutions
sont aujourd'hui largement dépassées. Mais la République En Marche devait transformer tout ça, dépasser, changer la politique. Mais ça ne marche pas?
Je ne dis pas que ça ne marche pas. Je constate que nous exerçons aujourd'hui le pouvoir et nos responsabilités en faisant le mieux possible. Je dis simplement que le moment venu, les vraies questions qu'il faudra se poser, c'est qui sommes-nous? Que voulons-nous pour les Français? Quelle organisation de la société? Quel modèle économique? J'essaye d'expliquer celui que nous voulons. Comment est-ce qu'on accélère la transition écologique? C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Quel modèle éducatif? Quelle construction européenne? C'est là-dessus, c'est sur ces sujets de fond que les Français nous jugeront. Et c'est là-dessus que nous avons le travail le plus important.
En fait, vous ne parlez plus de dépassement droite-gauche, parce que ça a changé en cours de mandat. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus centre-droit. C'est votre carburant électoral.
Très franchement, tout ça pour moi ne veut pas dire grand-chose. Ce qui veut dire quelque chose, c'est comment est-ce qu'on décide, par exemple, en politique? Est-ce qu'on oblige les gens ou est-ce qu'on incite? Nous, on est davantage du côté de l'incitation que de l'obligation. Est-ce qu'on réussit la transition écologique par la décroissance ou par une croissance technologique? Nous, nous croyons plus à la croissance technologique. Est-ce que la France est une et indivisible ou est-ce qu'on fait une place aux communautés? La France est une et indivisible et on ne fait pas de place au communautarisme ou au séparatisme. C'est toutes ces idées fondamentales sur lesquelles je pense que nous devons clarifier nos discours, clarifier nos projets pour susciter l'adhésion.
Parce que ça n'est pas assez aujourd'hui.
Parce que je pense que nous devons clarifier nos projets pour susciter une adhésion la plus large possible que je souhaite autour d'Emmanuel Macron et de la majorité présidentielle.
Autant de questions qui feront que vous reviendrez très certainement pour en parler. C'était le grand rendez-vous de Bruno Le Maire. À dimanche.
1.